Ah, quel plaisir de vous retrouver, Philippe Denis et Diego Arrabal, puisque pendant quelques semaines, je n'étais pas présent et donc je n'ai pas pu être avec vous et je le regrette vivement.
Oui, nous le savons, mais vous aviez de longues vacances, Philippe Subercase, donc vous aviez besoin donc
de bien vous remonter. Et puis nous avons vraiment regretté votre absence, même voilà. Si nous étions en de bonnes mains.
Mais nous n'avons pas manqué de la faire sentir à l'antenne, cette absence.
Ça m'a ému.
Cette absence à radio présence, vous voyez.
Alors aujourd'hui, allez. On n'est pas loin des fêtes de Noël.
Tout
je,
à fait.
Je vous avais demandé, alors je pense que c'est un hasard, parce que vous n'êtes pas à ce degré quand même de
non, mais vous savez que le hasard, c'est l'instant de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Le hasard, c'est l'instant de Dieu. C'est souvent ce qu'on dit. Alors, on a une interview aujourd'hui exceptionnelle avec une personne qui a un parcours professionnel remarquable et remarqué, jugé plutôt. Il a dirigé les instituts français de Téhéran, Beyrouth, Alger. Il a été conseiller culturel au poste diplomatique franco-allemand d'Herat en Afghanistan. Il est aujourd'hui à la retraite, mais poursuit son œuvre insatiable en effectuant encore et toujours des recherches archéologiques en Iran, pays où il se rend régulièrement, comme son épouse est iranienne. Il est également chercheur associé auprès de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. S'il nous accompagne aujourd'hui sur les ondes de présence, c'est pour parler d'un nouvel ouvrage remarquable et remarqué auquel il va falloir prêter attention, « La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses Abdon et Sénène », publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection « Iran en transition », collection dirigée par l'incontournable Atta Hayati, qui est persan, je le précise. Bonjour Jean-Claude Voisin.
Bonjour mon cher Philippe, bonjour à tous dans le midi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence. Je vais lire la quatrième de couverture de votre ouvrage passionnant qui retrace une histoire méconnue qui lie la Perse, l'Iran actuel et l'Occident chrétien. Cet ouvrage propose une redécouverte des origines de la persécution et du développement du culte des deux martyrs d'origine perse dans l'Occident chrétien. Conduit à la manière d'une enquête policière, ce travail minutieux part à la recherche de la véritable origine des deux chrétiens orientaux et évoque le développement de leur culte dans les derniers siècles de l'Empire romain, puis en Occident dès le Xe siècle, où il reste encore particulièrement vivant en Languedoc-Roussillon et en Espagne. L'enquête menée sur plus d'une centaine de paroisses en France, en Espagne, en Suisse, au Liban, en Grèce, en Afrique du Nord, nous montre la véritable place qu'occupèrent les deux saints orientaux dans notre paysage rural de l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui à travers statues, fresques, vitraux, bannières, retables et reliques. Jean-Claude Voisin, vous
oui.
êtes docteur en histoire et archéologie donc, du Moyen-Âge. Comment vous avez entendu parler, parce que moi je n'avais jamais entendu parler des martyrs perses Abdon et Sénène, le Diego Arrabal pareil.
Pas plus.
Nous avons un diacre avec nous là, qui écoute lui aussi, qui écarte les bras en nous disant qu'il n'est pas au courant. Comment vous avez entendu parler de cette histoire?
Vous savez, la vie est une succession, enfin pour moi tout au moins, je l'admets, de rencontres et de surprises. Et un jour, à Téhéran, alors que nous remettions à l'ambassade une décoration française à un professeur d'université, un professeur de français, en aparté, après les discours, il me dit « Ah oui, vous venez de quelle région ?» Là, le Jura. Ah oui, ah ben il me dit non, c'est pas tellement un coin que je connais, moi je connais plutôt le Midi languedocien. Et il dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler des martyrs perses, Abdon et Sénène? J'ai dit, des martyrs qui sont où? Ben, qui sont honorés dans le sud de la France, enfin un endroit où j'ai fait mon doctorat d'État dans les années 70, j'étais à Montpellier, et j'ai entendu parler d'un pèlerinage le 30 juillet de chaque année, qui se déroulait dans une petite bourgade pas très loin de Perpignan. J'y suis allé et il m'a dit « c'était spectaculaire pour moi de voir l'intensité, la foi, le monde qui était réuni ce 30 juillet avec une procession, on y promène les reliques des saints, ainsi de suite. » Je dis « oh, bah, attendez, on va se revoir, vous allez m'en dire plus. » Et puis, on s'est revus, mais on s'est mis d'accord qu'un jour, on irait ensemble au pèlerinage à Arles-sur-Tech, puisque c'est là que tout commence, pas très loin de Perpignan, pour ceux qui nous entendent, Amélie-les-Bains, Perpignan. Et j'avoue que moi j'étais en poste à Alger, je suis revenu d'Alger, lui arrivait de Téhéran, et nous nous sommes retrouvés ensemble un dimanche 30 septembre, et ça m'a sidéré parce que j'ai trouvé que c'était encore un peu hors du temps, mais le paradoxe, c'est que, vous voyez, dans cette époque où tout nous sépare à travers le monde, entre les peuples, il y avait là un consensus, un rapprochement avec la Perse, avec l'Orient chrétien, qui était quelque chose comme un accident de la vie, vous voyez, parce que ça choquait un peu par rapport à l'ambiance générale qui n'est pas celle-là. Et là, d'un seul coup, il y avait une belle harmonie. Et le prêtre d'Arles-sur-Tech, ce jour-là, a fait toute une homélie au sujet des chrétiens d'Orient, bien entendu, mais aussi des relations dans la chrétienté avec la Perse. Et après, nous sommes allés le voir. Enfin bref, on a pris l'apéro ensemble sous les platanes d'Arles-sur-Tech. Mais c'est une aventure pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à ce monsieur qui s'appelle Ahmad Kamyabimask, je lui ai dit « Ahmad, je vais me mettre en piste. Je rentre en France pour ma retraite. J'ai du temps. Je vais courir sur la trace de ces deux personnages pour savoir si c'était fictif ou pas, quelle était l'importance. » Et j'avoue qu'au fur et à mesure des kilomètres que j'égrenais à travers les territoires que vous avez cités, ma stupéfaction était de plus en plus grande. Et on va rentrer un peu dans le détail. Je vous rends la parole.
Alors, on va rentrer justement dans le détail là, d'Abdon et Sénen, parce que on va resituer. C'est vrai que l'Iran aujourd'hui, tel qu'on le perçoit, c'est un pays donc d'islam chiite, mais c'est un pays où on trouve également des chrétiens, notamment beaucoup d'Arméniens qui ont fui le génocide arménien en 1915. Il ne faut pas oublier de dire aussi qu'on y trouve des juifs, puisqu'il y a quatre synagogues également, donc à Téhéran même, ce qui va certainement surprendre effectivement plus d'un, hein, donc des Iraniens hein, qui sont de confession juive ou des Iraniens qui sont de confession donc chrétienne, puisque le président actuel iranien est d'origine arménienne et donc, je pense, certainement de confession chrétienne. Et donc, on va revenir à Abdon et Sénen. Comment ces deux personnages en arrive à un moment donné à être, à venir effectivement en Europe, et on va parler là des liens qu'il y a eu entre la Perse et l'Empire romain. Je vous redonne la parole, Jean-Claude Voisin.
Oui, alors évidemment, c'est peut-être, Philippe, quelque chose, enfin moi qui peut préoccuper nos auditeurs, c'est de savoir d'abord pourquoi l'Église romaine, je ne sais pas si je vais perturber un peu votre conducteur, mais pourquoi l'Église romaine s'est-elle intéressée à la Perse, à l'origine perse de ces deux personnages, pour mettre en avant ce qualificatif qui apparaît systématiquement dans les archives de l'Église dès le IVe siècle, martyr perse. On prend la peine de spécifier, voyez, leur origine géographique. Est-ce que j'en parle maintenant ou on fait ça pour plus tard ?
Ah, maintenant.
Alors, oui, on veut savoir.
On veut savoir, là, parce que là, vous nous mettez l'eau à la bouche, donc...
Parce que moi, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais tous les martyrs ne sont pas doublés, on va dire, d'un qualificatif qui donne leur origine de naissance, on ne dit pas Blaise l'Arménien, vous voyez, on n'a pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, la tradition de qualificatif, elle va se développer essentiellement à partir de la fin du Xe siècle, à partir de la Catalogne, là où les reliques vont arriver de Lourdes, on verra d'où viennent ces reliques avant, et c'était l'époque où la chrétienté commençait à reprendre pied après l'invasion arabe sur le monde hispanique. Et cette chrétienté qui avait été coupée en deux en 395 par le grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, et il y a eu cette volonté, notamment de Rome, de montrer les origines orientales de l'Église chrétienne pour montrer que cette Église était universelle et faire en sorte de porter le flambeau dans cette nouvelle reconquista en direction de l'Espagne en s'appuyant sur ce grand monde de cette Église qui allait donc des confins de l'Inde, on va dire, avec la Perse qui avait été en partie christianisée, pour arriver jusque là, au Xe siècle, en Catalogne. Et donc, pourquoi ces deux martyrs pouvaient-ils servir, on va dire, d'une certaine façon, le discours de cette Église par rapport à cette uniformité qui existait quand l'Église chrétienne était orientale, déjà, avant d'être occidentale? Eh bien, tout ça parce que la Perse, évidemment, va jouer un grand rôle dans les relations avec l'Occident. Il y a eu 400 ans, un peu plus, de guerre entre, on va dire même avant la naissance du Christ, et puis après, on est dans cet environnement-là, en guerre entre les empires parthes et sassanides. C'était les noms qu'on donnait aux deux grands empires de cette époque, de 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 640 après Jésus-Christ. Et ces deux empires vont être en guerre avec l'Empire romain et l'Empire byzantin sur une ligne de partage qui sera un peu 14-18 pour l'Europe, c'est-à-dire une guerre de position qui va rester comme ça pendant 400 ans et qui coupait l'Irak actuel en deux. À l'ouest, vous aviez l'Empire romano-byzantin, et à l'est, vous aviez l'Empire parthe, puis après l'Empire sassanide. Et il va y avoir beaucoup de conquêtes qui vont se faire, de prisonniers, à chaque fois que les uns avançaient, que les autres reculaient, ainsi de suite. Donc parmi ces prisonniers, il est possible, parce que là on rentre dans une légende sur les origines, que les deux personnages aient pu être des militaires perses sassanides en 250. Là-dessus, les textes sont assez précis et concomitants. Il y aurait eu donc une mise en captivité de deux personnages d'origine perse. Il y a une deuxième tradition entre les relations qui pouvaient se faire entre la Perse et l'Occident romain, c'était aussi des relations économiques, bien sûr, et dans le port d'Ostie, qui était le grand port de la Rome antique, il y avait beaucoup dans les communautés d'ouvriers, on le sait par les inscriptions retrouvées par l'archéologie, il y avait beaucoup d'ouvriers d'origine orientale. Et quand on dit orientale, c'était la Mésopotamie, dans la géographie, la Mésopotamie, ce qui va devenir l'Arménie, donc la partie de l'Iran actuel, et c'est possible aussi que ces deux personnages qui vont apparaître sur le devant de la scène aient pu être des ouvriers d'origine perse qui travaillaient donc dans le port d'Ostie. Mais la Perse, et je terminerai par là cette question, avait une double importance aux yeux de Rome, de l'Église de Rome, c'est que l'évangélisation de tout l'Extrême-Orient qui commence dans les années 300 va se faire à partir de la Perse. Et ce sont des missionnaires chrétiens de Perse qui vont partir, excusez-moi, évangéliser, par exemple, la Chine. Et lorsque les Chinois, dans les textes qui existent de ces années du 4e siècle après Jésus-Christ, parlent de la chrétienté, ils parlent très nettement de ces missionnaires perses. Voilà. Et donc, vous voyez, il y avait déjà une intimité très forte. Et j'ai découvert cet été, au nord-ouest de l'Iran, quelque chose qui m'a sidéré, et comme on est peu de jours avant Noël, il faut que je vous le dise, parce que c'est à n'en pas croire ses oreilles. J'étais dans la ville d'Urmié, là où il y a eu des massacres, notamment en 1918, Monseigneur Sontag, l'évêque français de la communauté chrétienne de cette région autour du lac d'Urmié, qui est au nord-ouest de l'Iran actuel, se sont fait massacrer. Et dans cette ville, j'allais moi pour étudier autre chose dans les environs, et mon collègue iranien me dit « Ah tiens, est-ce que vous connaissez les églises d'Urmié ?» Ah non, je ne suis jamais allé visiter des églises à Urmié. Il m'a dit « Il y en a deux, nous sommes allés visiter ces deux églises, dont une dédiée à Notre-Dame, et quand on est arrivé, le gardien a dit « Ah, vous venez pour voir la chapelle ?» Je dis « Quelle chapelle ? Ah, comment vous ne savez pas qu'on a ici une des deux plus anciennes églises chrétiennes du monde, après Bethléem ?» Je dis « Qu'est-ce que vous racontez là ?» Alors on est allé, et il y avait un tableau de l'UNESCO, en anglais et en persan, qui expliquait que cette chapelle, qui datait a priori du 6e siècle après Jésus-Christ, dans son état restauré, faisait suite à un temple du feu de la tradition, j'allais dire presque classique, de l'Iran d'alors, qui était le zoroastrisme. Et dans cette chapelle, il y avait un autel, j'ai pris des photos, et effectivement cet autel couvert qui ressemble à un dôme avec quatre arcatures qui ouvrent sur les quatre côtés d'orientation, nord, sud, est, ouest, porte au centre l'autel lui-même, et le tableau indiquait que dans la chapelle serait inhumé un des trois rois mages qui était arrivé à Bethléem, puisque les mages, c'est Magus, c'est le nom qu'on donne aux prêtres zoroastriens de cette fameuse donc religion d'État à l'époque de la religion du Christ. Et vous voyez, on aurait conservé la tradition, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, de l'inhumation d'un de ces trois mages, donc qui venaient les trois a priori du monde perse, de l'empire perse, pour présenter, on va dire, leurs félicitations et d'une certaine façon, donc peut-être l'importance la plus grande d'une religion du Proche et du Moyen-Orient de l'époque, venir là reconnaître l'existence et adouber d'une certaine façon la nouvelle religion qui naissait ce 25 décembre. Et c'est des choses assez étonnantes. Mais revenons à nos deux gaillards,
voilà, Abdon et Sénen. Donc pour celles et ceux qui prendraient l'émission en cours de route, hein, je rappelle que nous sommes bien sûr présents à l'émission Un jour un livre, un auteur, avec Jean-Claude Voisin pour son livre La Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses Abdon et Sénen, publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Iran en transition. Je vais lire Jean-Claude un passage en page 21 où vous interrogez de votre livre, vous écrivez « Abdon et Sénen étaient-ils perses ?» Et voilà ce que vous écrivez. « La Passion de Saint-Laurent, rédigée à la fin du 5e siècle ou au début du 6e siècle, tout comme les autres textes, présente nos deux saints comme originaires de Perse, et plus précisément de la province ou ville de Cordéla, Corodra, Cordula, Corduena, confondue abusivement avec la ville de Cordoue en Espagne. » Il s'agit en fait d'une province dite Transtikritane, située au sud du lac de Van, dans le Kurdistan turc de nos jours, appelé alors Ardissa. Cette province, partie du royaume antique dit de Grande Aménie, tombe sous le joug perse sassanide en 251. On la dénomme Gorugienne ou Gordienne. Non loin de là, on trouve la grande cité antique de Ninive. D'autres martyrs tirent leur origine de cette région. Élias, Chrysotèle, Luc, Mucius, Milex. Tous les textes hagiographiques font d'Abdon et Sénène des subrégulis, c'est-à-dire des sous-gouverneurs de petites principautés ou des chefs de tribus. Cette fonction rehaussait leur situation de prisonniers participant au fameux triomphe de l'empereur à Rome. Alors, on va revenir effectivement à leur destin, c'est-à-dire qu'ils ont été prisonniers, ramenés à Rome, donc ils ont vécu un martyr, et on va évoquer, je vous le propose, Jean-Claude, ce martyr dans une émission que nous allons faire la semaine prochaine, donc avec vous, pour continuer sur ce thème effectivement que vous avez, sur lequel vous avez écrit, la Perse et l'Occident chrétien, histoire des martyrs perses, Abdon et Sénène. On va se retrouver, Jean-Claude, la semaine prochaine là, pour enregistrer une nouvelle émission donc avec vous, parce que y a quand même, votre livre, c'est difficile d'en parler effectivement en une seule fois, surtout sur ces martyrs perses, Abdon et Sénène, dont le culte, on le répète, est célébré chaque année le 30 juillet donc à Arles-sur-Tech, donc en pays catalan, en France. Et voilà, on revient avec vous la semaine prochaine pour en parler, Philippe Subercaz. Voilà.
Bien sûr, avec grand plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir, Jean-Claude, à la semaine prochaine.
C'est merveilleux. Au revoir.